RCF.
C'est Grand Angle, bonjour. Le sens de la marche, eh bien, c'est le thème aujourd'hui de l'émission préparée en partenariat avec l'hebdomadaire Pèlerin. Avec Pèlerin, mais aussi avec RCF, puisque RCF est partenaire du 3e forum des chemins de pèlerinage organisé à Paris par le forum 104 et l'hebdomadaire. Ce week-end, alors quel est le sens de la marche? On va y réfléchir, on va en parler, on en connaît les bienfaits. On se demande ce qui met en route les marcheurs, ce qui nous pousse les uns et les autres sur les chemins. Et enfin, peut-être, pour ceux qui randonnent dans la durée, comment on en revient? La marche nous change, nous transforme, nous console aussi peut-être. La marche, ce n'est pas que pour les bien portants, c'est pour tous. La marche, c'est aussi un chemin de guérison, de réalisation de soi-même. On en parle avec mes invités aujourd'hui. Gaëlle Delabrosse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialiste des pèlerinages et de la randonnée, cheville ouvrière. C'est important la cheville, dans la marche. Cheville ouvrière et grande organisatrice donc de ce forum des chemins de pèlerinage, auteur de plusieurs articles, plusieurs ouvrages aussi autour de ce sujet. Grâce à vous, on a autour de la table beaucoup de marcheurs qui font juste une pause au studio RCF. Claire Colette, bonjour, vous êtes avec nous par téléphone.
Oui, bonjour, bonsoir.
Vous êtes en Belgique, vous avez mal encaissé quelques difficultés dans l'existence jusqu'au jour où vous êtes mis en marche vers Compostelle. Vous êtes rentrée de trois mois de pèlerinage transformée, ragaillardie, j'ai presque envie de dire vivante selon votre expérience, pour venir en aide aux jeunes en difficulté. Vous avez fondé ensuite l'association En Marche. Alors je le précise, il n'y a aucune ambition présidentielle dans l'association En Marche, parce que d'abord c'est une association belge, et on sait bien que la Belgique est un petit royaume. Vous avez écrit un livre, Compostelle, la saveur du chemin, publié chez Academia en 2015, et vous allez nous témoigner de votre expérience par téléphone tout à l'heure. Florence Le Bourris, Germanie, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez osé le premier pas. Bah oui, c'est quand même celui qui compte, le premier pas. Un premier pas vers Compostelle. Ce n'est pas facile de se lancer sur la route. Et pour aider ceux qui entendent l'appel du chemin, mais sont un peu dourds d'oreille, eh bien, l'association Les Premiers Pas apporte une aide précieuse. C'est bien ça, hein?
C'est tout à fait ça.
Eh bien, vous allez nous raconter aussi. Nicolas de Reglaudre, bonjour.
Bonjour.
Je le dis, vous êtes handicapé unijambiste et vous l'écrivez aussi dans votre livre, ce qui ne vous empêche pas de prendre la route.
Exactement, ça fait ça.
Vous avez même parcouru plus de 1500 km pour vous rendre jusqu'à Compostelle à l'aide de vos béquilles et de votre force de caractère, ce que vous avez raconté donc dans un livre, Journal d'un unijambiste sur le chemin de Compostelle aux éditions Nico Razon. Et puis Bernard Olivier, bonjour.
Bonjour.
Félicitations, puisque vous avez donc reçu, vous allez recevoir, on va vous remettre ce week-end le prix Pèlerin du témoignage en chemin. Pour le livre que vous avez écrit, Longue marche, suite et fin, avec Bénédicte Flatté.
Oui, j'en suis très honoré. Nous en sommes très honorés tous les deux. Voilà.
Vous êtes grand écrivain de voyage depuis votre périple de la Méditerranée jusqu'en Chine par la route de la soie qui a été racontée dans Longue Marche. C'était votre premier ouvrage il y a déjà fort longtemps. Eh bien, il y a eu plein de chemins par la suite, mais aussi la fondation de l'association Seuil qui accompagne des jeunes en difficulté sur les routes pour les remettre, dans le droit chemin, mais ça n'est pas du tout coercitif.
Oui, c'est en pleine liberté qu'ils peuvent partir, mais effectivement, la marche est un moyen, thérapeutique les concernant.
Ça leur redonne un sens à leur existence, vous racontez ça, et bien notamment dans Marche et invente ta vie, un livre paru chez Arto Poche en 2017, cette année, et puis Longue marche, suite et fin, on l'a dit, c'est le livre paru chez Phébus qui vous vaut le prix remis par Pèlerin lors du forum des chemins de pèlerinage. Voilà, beaucoup de monde autour de la table pour parler du sens de la marche, c'est le thème du jour de Grand Angle, et c'est tout de suite sur RCF.
Grand Angle, RCF, en partenariat avec Bayard Press.
Bernard Olivier, je le disais en introduction, vous êtes donc parti il y a quelques années, pour cette longue marche jusque la Chine. Ça ne vous a pas suffi. Ce grand périple vous a mis en marche, mais depuis vous n'arrêtez pas.
Bah, disons que j'avais très très peur de la retraite et de la non-activité qui m'attendait. Et donc, j'avais tellement peur que au moment où j'ai pris ma retraite, je suis parti pour Compostelle, depuis Paris d'ailleurs, donc, ce qui est un peu plus long que le chemin habituel, hein. C'est 2300 kilomètres. Et puis, j'ai trouvé ça tellement formidable que j'ai voulu faire un chemin beaucoup plus long, puisque ma retraite promettait en tout cas de me donner du temps. Et donc, je suis parti d'abord d'Istanbul jusqu'à Xi'an, donc l'ancienne capitale impériale de la Chine, d'où partaient les caravanes soyeuses, en suivant à peu près le chemin qu'a utilisé Marco Polo. Et donc, contrairement à lui qui est parti à cheval et qui a pris beaucoup de temps, moi je suis parti à pied et j'ai donc traversé des pays formidables, j'ai rencontré des gens merveilleux et ça m'a redonné une telle pêche, je dirais, que je n'ai pas... Ma retraite est passée comme une fusée. Depuis que donc ce moment de grande déprime, hein, j'étais très déprimé avant de partir pour Compostelle, depuis j'ai écrit... j'en suis au 15e livre.
Vous avez fait les bords de la Loire, vous avez fait des tas de choses.
J'ai descendu la Loire en canoë aussi, donc j'ai pas fait que de la marche. Et puis surtout, j'ai créé donc cette association Seuil, qui propose donc à des jeunes en très très grande difficulté, hein, il y en a un tiers, ou près de la moitié, que nous allons chercher en prison, qui ont donc fait des livres ou même des crimes, et qui donc partent marcher 1800 kilomètres pendant 3 mois, et le plus difficile pour eux c'est de marcher, mais surtout de partir sans téléphone et sans musique. Donc c'est effectivement quelque chose qui les remet d'aplomb, c'est d'une résilience extraordinaire. Ça coûte beaucoup beaucoup moins cher que la prison, c'est beaucoup beaucoup plus efficace. Donc voilà, j'ai créé cette association en mai 2000. J'ai eu beaucoup de mal à faire passer cette idée. A priori, beaucoup de gens étaient contre, y compris le ministère de la Justice, qui considérait que j'étais un homme dangereux, qu'ils allaient fuguer, qu'ils allaient faire des blagues, qu'ils allaient faire des vols.
Oui, quand on a 20 kilomètres dans les jambes, c'est autre chose.
Absolument. Et puis, on cherche pas à aller faire des fugues quand on a fait... ils font en moyenne 25 kilomètres par jour. On a même une jeune fille de 14 ans qui a fait 74 kilomètres, qui a battu mon propre record. J'étais très fier d'avoir fait 68 kilomètres dans le désert de Gobi. Ben, je suis battu donc par une gamine.
Quelle énergie. Combien de jeunes ont franchi seuil?
Alors, au début, c'était très très difficile. Nous faisions marcher...
Parce qu'ils sont accompagnés, hein.
Oui, chaque jeune part avec un adulte. Au début, c'était très difficile. On nous autorisait une ou deux ou trois marches par an. Actuellement, nous faisons 30 marches par an. Nous sommes près de 200 jeunes qui sont partis marcher. Pour l'essentiel en Espagne, pour des raisons, je dirais, de facilité d'accueil, puisque nos jeunes ne marchent pas uniquement à la belle saison. Ils marchent quand il fait très chaud et ils marchent les pieds dans la neige, selon la saison. Voilà, ils partent pendant 3 mois et il n'y a pas de...
Ça veut dire que les accompagnateurs sont à la fois des bons marcheurs, mais aussi des personnes attentives, bienveillantes.
Surtout des gens qui ont une expérience éducative. À peu près 60% des accompagnants ou accompagnantes sont des éducateurs. Et donc, si vous voulez, le problème numéro un de ces jeunes, c'est pas qu'on leur parle, c'est pas qu'on les éduque, c'est qu'on les écoute. Et donc, nous cherchons effectivement, vous avez dit le terme bienveillance, mais surtout écoute. Car ces jeunes, effectivement, ont besoin de s'exprimer pour découvrir qu'ils existent. Le problème, c'est qu'ils ont tous des problèmes d'existence, les filles en particulier. Ils sont mal dans leur peau et ils ne se jugent pas à leur valeur, alors que souvent, ils se ce sont des gamins formidables. Et donc, je dirais que le principal apport que nous avons, ce qui les concerne, c'est qu'on leur donne de l'estime de soi. Mmh. Et il y en a un qui a merveilleusement bien résumé ça en disant « Quand je suis parti, j'étais un blaireau. Et depuis que je suis revenu, je suis un héros. » Mmh. Et effectivement, marcher 1800 kilomètres, ça n'est pas donné à tout le monde. Hein, et le papa qui l'a mis à la porte, quand il revient, révise son jugement, quoi.
Alors, très vite, hein, quand on vous parlez des autres, vous parlez des jeunes. Je reviens quand même à votre expérience de longue marche,
ouais.
Hein, celle qui vous a mené jusqu'à la Chine. Vous nous avez dit combien au retour ça vous avait transformé. Mais qu'est-ce qui se passe en chemin?
Je dirais que, alors pour résumer là encore, quand on marche, on pense. Je dirais que ça n'est pas un hasard si toutes les religions pratiquent le pèlerinage. Là, je suis athée, mais je dis que quand je marche, je suis près des anges. Il y a un moment où effectivement, où dans la marche, on se lâche, on va au tréfonds des choses, on a donc une approche personnelle très très forte. On en a une autre qui est la rencontre. C'est-à-dire qu'en particulier quand on marche seul, on fait des rencontres extraordinaires. Je veux dire que entre Istanbul et au moins la frontière chinoise, mon problème n'était pas d'être hébergé ou nourri, c'était de repartir après que des
là
gens.
Là, vous étiez accueilli.
Mais bien sûr, et les gens me disaient, mais tu vas pas rester qu'une nuit, tu restes une semaine, etc. Donc, si vous voulez, cette réflexion et cet accueil, forcément, vous transforme. On revient forcément différent de ce qu'on est. J'ai été changé par la marche. Mmh. La marche, pour moi, était, ça fait près de 20 ans que je suis en retraite, a été un moment merveilleux où je me suis accompli, je dirais, sans doute plus que pendant ma période professionnelle avant.
Mmh. Mais on va pas se mentir, quand on marche sur de longues distances comme ça, il y a des passages à vide, des passages un peu difficiles. Comment on traverse ça?
J'en ai pas eu trop. Je dirais que la première année, puisque je marchais 4 mois par an, la première année, je suis revenu en ambulance, donc on aurait pu. Moi, j'ai une formule. Hein, il faut de l'inconscience pour partir et de la chance pour revenir. J'ai aussi risqué ma vie plusieurs reprises. Hein, donc, si vous voulez, je n'ai eu qu'un moment de désespoir, justement dans le désert de Gobi, parce que en même temps que moi marchait le premier groupe de jeunes que nous avions pris en charge, et j'ai appris qu'un des jeunes, ils étaient deux, un des jeunes avait abandonné, et là du coup je me suis dit que puisque une bonne partie de mes droits d'auteur permettait de financer l'association, je me suis dit que si ça marchait pas, c'était peut-être pas la peine d'insister. Donc j'ai eu une nuit de doute, mais c'est la seule fois. Autrement, j'étais mais porté par la marche. C'était extraordinaire. Je me levais avant le jour et chaque matin, je voyais le soleil se lever avec un bonheur absolu. Non, pour moi, ça n'a pas été de la douleur. J'ai eu des problèmes. Hein. Je vous dis, la première année, je suis revenu, je suis sorti d'Orly sur un brancard. J'étais vraiment pas bien. J'ai eu des problèmes une infection des pieds, d'ailleurs, très sérieuse, puisque quand j'ai enfin trouvé une pharmacie et que j'ai enlevé mes chaussures, l'assistante du pharmacien a eu un malaise.
Ah oui. Donc, c'est dire l'état des pieds.
Pas, oui, voilà. Mais, si vous voulez, j'en suis. Je dirais que ça m'a grandi. Grandi, je ne dirais pas, parce que je suis un homme plutôt modeste, mais ça m'a transformé. Voilà.
Ça vous a réalisé, vous disiez tout à l'heure.
Tout
c'est
à
une
fait.
Forme de réalisation
tout
de l'existence.
Absolument. Mmh. Et donc j'ai été voilà. Et du coup, je suis devenu un porte-parole de la marche, hein, et qui s'applique pas seulement pour des fous qui partent comme moi. Et donc j'ai écrit dans un de mes livres qui s'appelle La vie commence à 60 ans que si on faisait marcher tous les vieillards 20 minutes tous les jours, on boucherait le trou de la sécurité sociale. C'est quand même le meilleur remède qu'on puisse suggérer.
Mmh. Tous en marche. Enfin bon là. c'est aussi une campagne, mais c'est une autre campagne qui a été lancée par les hommes politiques. On ne va pas en parler aujourd'hui. Gaël Delabrosse, quand on écoute Bernard Olivier, ce témoignage quand même de 20 ans de marche, oui, on voit que la marche, ça fait quelque chose aux marcheurs.
Oui, moi, il y a un titre de livre de Bernard Olivier que j'aime beaucoup, c'est « Marche et invente ta vie », qui est d'ailleurs en fait des témoignages des jeunes de l'association Seuil qu'il a recueilli. Et c'est moi, je trouve qu'il y a voilà, c'est vraiment la définition de la marche, c'est réinventer sa vie. Alors moi-même, j'ai découvert la marche très jeune, puisque j'étais adolescente, j'avais 16 ans, je suis arrivée à Fatima après avoir marché pendant un mois avec des groupes de jeunes, c'était dans un camp itinérant. Donc c'est la marche, mais c'est aussi tout ce qui va avec la marche, c'est-à-dire dormir à la belle étoile, c'est-à-dire partir avec un sac très léger, c'est-à-dire voilà, manger peu de choses, enfin avoir un petit budget, voilà, tout ça, ça fait partie quand même
de beaucoup de choses.
Exactement, voilà, ça fait partie du, à mon avis, voilà, marcher, c'est pas partir avec trop de bagages, c'est pas partir non plus avec la tête trop encombrée. C'est vraiment lâcher les amarres et puis voilà. Donc c'est camp itinérant que j'ai fait pendant 8 ans, enfin 8 étés. À chaque fois, on marchait pendant un mois et puis on arrivait dans un haut lieu sacré. M'ont donné ce qu'on peut appeler le virus de la marche. Donc j'ai comme ça découvert Rome, Assise, Fatima, Saint-Jacques de Compostelle, bien sûr, qui a été vraiment pour moi une révélation. Et ça, effectivement, le chemin est devenu un peu le fil conducteur de ma vie.
C'est une question battue, rebattue, mais qu'est-ce qui compte? C'est la marche, c'est le but?
C'est effectivement la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est le chemin qui compte ou est-ce que c'est le but? Moi, je pense qu'il faut distinguer dans ce cas la randonnée du pèlerinage. C'est vrai, quand on randonne, on peut faire une boucle. Alors, l'exemple est mauvais parce qu'il y a des pèlerinages qui sont en boucle aussi, comme le Trobrez ou bien d'autres pèlerinages dans d'autres religions, bouddhistes notamment. Mais c'est vrai que quand on marche, quand on fait un pèlerinage, on marche vers. On marche vers un lieu et c'est ce lieu qui donne le sens de la marche. Comme pour les chrétiens ou pour d'autres religions, c'est effectivement l'espoir d'avoir une vie après la mort qui donne le courage aussi d'avancer chaque jour dans le pèlerinage de sa vie. Voilà, je pense qu'on peut comparer ces deux démarches.
On va en parler parce que pour chacun, on voit que la marche, c'est aussi quelque chose qui aide à traverser certaines fragilités, voire certains handicaps. Lors du forum, il y aura une table ronde autour du chemin qui guérit. Vous appelez même ça Camino thérapie, pas calinothérapie, hein. C'est pas pour les câlins, c'est camino, c'est-à-dire le chemin qui guérit. Expliquez-moi.
Oui, en fait, c'est un terme que Luc Adrian, qui est journaliste et écrivain, a inventé, la caminothérapie, donc c'est-à-dire le chemin soigne. Voilà, on peut dire je marche parce que c'est bon. Pas toujours les pieds.
Plus en profondeur.
Dans le cas de Bernard, dans le cas aussi, je sais qu'il y a un motard italien qui s'appelle Marco De Ambrogio, qui, comme Bernard, avait effectivement eu une inflammation sévère au pied. Et lui, il est parti. C'était pas lui pendant la marche, c'était avant. C'était en traversant les déserts à moto. Et il est parti marcher sur les chemins de Saint-Jacques. Et ça l'a complètement ressuscité. Et il est revenu complètement guéri. Donc c'est vrai que dans certains cas, la marche ne fait pas qu'éduquer, comme le dit Bernard. La marche peut soigner et parfois même guérir.
Claire Colette, quand on dit que la marche peut guérir, peut soigner, c'est un petit peu votre aventure?
Oui, c'est totalement mon aventure. Moi, je suis partie maintenant, ça fait 11 ans, mais depuis, ça fait 11 ans que je marche également. Je suis partie parce que je souffrais de fibromyalgie, mais je dirais en même temps que la fibromyalgie est un des éléments qui m'enfermait. Donc, je suis partie, et j'avais 53 ans, parce que j'étais dans un état d'enfermement dans toute une série de dimensions de ma vie, aussi bien au niveau du corps, au niveau du cœur, au niveau des questions de sens sur ma vie, donc au niveau plus spirituel. Et voilà, donc ça c'est toute une série d'éléments qui ont convergé et que je n'ai pas perçu au début. Hein. Il y a toute une série de choses qui allaient mal dans ma vie. Et voilà, je l'ai rencontré, je l'ai traversé, je les accumulais plutôt. Et puis arrive un moment où des choses énormes s'abattent sur moi. Et un des éléments où ça m'a permis de prendre conscience, c'est quand je réalise, alors là c'est énorme, je réalise que non, je n'ai plus 20 ans, mais j'ai 52, 53 ans. Et là, ça a été un véritable coup. Je me retrouve, mais vraiment à terre, en réalisant que voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, toute une série de grandes questions essentielles que je m'étais déjà posées auparavant. Mais là, je les reçois dans mon cœur avec une violence terrible. Et dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, parce que voilà, c'est une histoire de famille depuis des générations qui est très en souffrance, je ne vois que le négatif. Et donc je vois que j'ai le sentiment que j'ai raté tout, que j'ai pas su aimer, que j'ai pas pu être aimée. Et
qui,
voilà.
Qui vous a ouvert le chemin? Qui vous a dit allez, vas-y, prends la route?
C'est pas Saint-Jacques à ce moment-là. C'est la symbolique de la marche sur le chemin de Saint-Jacques que j'ai croisé à un moment donné parce que j'avais accompagné dans la préparation d'un film, Animaux Mariage. Donc c'est un réalisateur chez nous en Belgique et j'ai travaillé comme assistante pendant quelques années. Et en approchant le phénomène Saint-Jacques, ce qui m'a profondément touchée et qui a été vraiment me rejointe là où ça me parlait, c'est que c'est symbolique, voilà, c'est un chemin qui se trouve au point le plus occidental, c'est Occident vient d'Occidere, c'est un chemin où on meurt et on renaît, dans le meilleur des cas. On peut y rester aussi, hein, certaines personnes terminent leur jour sur les chemins de Compostelle. Donc pour moi, ça a été le choc dans le bon sens, je dis voilà.
Il fallait tenter l'aventure.
C'est même pas tenter l'aventure, je change ou je meurs. Voilà, j'étais vraiment dans un état affectif, mental d'état de santé tel que je pense que je ne serais plus vivante aujourd'hui si je n'étais pas partie marcher. Alors c'est clair qu'on peut mourir de plein de manières différentes, on peut être éteint et continuer à vivre, mais on peut vraiment mourir. Et je ne suis pas certaine que je serais encore vivante aujourd'hui si je n'étais pas partie il y a 11 ans maintenant.
Mmh. Ce qui vous a donné par la suite l'envie donc de fonder cette association En Marche. On va en parler tout à l'heure. Nicolas de Roglaudre, vous, quand vous vous êtes mis en marche, je rappelle que vous avez donc un handicap, vous êtes unijambiste. Il n'était pas question de guérir physiquement, mais quand même, vous avez voulu tenter ce chemin.
Alors donc, oui, effectivement, il faudrait refaire toute une histoire. L'expérience du chemin, celui de Compostelle, est peut-être à revoir comme un espèce de point d'orgue, une relecture de ce que j'ai vécu avant. Donc je suis handicapé depuis l'âge de 17 ans, enfin 17 ans, 18 ans, 19 ans, je suis tombé très gravement malade. J'étais dans un lycée catholique, il y a eu un empoisonnement, puis moi ça a créé des conséquences très graves, donc j'étais hospitalisé, ça a duré plusieurs années, hospitalisation, rééducation, convalescence. Et après, donc, un décalage par rapport à ma génération, par rapport à tous ceux qui étaient comme moi. Il a fallu rattraper le retard. Un retard physique, bien sûr, pour marcher, mais un retard aussi affectif, un retard donc psychologique. Je pense que Florence en parlera tout à l'heure. Un retard social et professionnel aussi, parce qu'on est vraiment décalé.
Pendant ce temps-là, les autres ont avancé, si
je veux dire. Pendant ce temps-là, les autres ont avancé. Donc, je savais plus vraiment parler, je savais pas parler de ce que j'avais vécu, c'était très difficile. Et donc, il a fallu rattraper ce retard. Alors, il y a déjà une idée de marche, mais moi, j'ai essayé de rattraper ce retard en faisant énormément d'études. Donc, j'ai fait 16 ans d'études au total, j'ai calculé, j'ai raconté avant de venir ici. Et puis, j'ai rencontré une femme magnifique, j'ai des enfants, donc reconstruction de toutes les dimensions. Et puis, mais restait le problème du corps, que je n'avais pas véritablement eu l'occasion de mettre à l'épreuve pour une reconstruction. Ce que je pense souvent, c'est que la maladie qui m'habite, c'est une maladie auto-immune, donc d'autodestruction du corps, avec tout ce que ça signifie par derrière. Il s'agit après donc de reconstruire, de réunifier, de se réapproprier le corps, la sensibilité, ce qui nous met
avec
en fait en présence
limites,
du monde,
aussi,
avec ses limites et voilà. Alors il y a beaucoup de choses qui aident. L'origine, le désir de la marche est né c'est un groupe de consultants qui m'a invité à faire une marche dans le désert du Maroc en 2009, où j'ai marché pendant 8 jours à peu près. Dans le sable.
Qu'est-ce que vous leur répondez quand ils vous invitent à une marche pendant 8 jours? Vous dites, mais ça va pas? Ou alors vous dites, ah, bonne idée.
Oui, je dirais tout de suite, non seulement bonne idée, mais il est nécessaire. C'est pas seulement du domaine de bonne idée, mais il faut y aller, oui. Mm-hmm. Alors, j'y suis allé. Il m'était offert cette expérience, m'était offerte. Et aujourd'hui, c'est un de mes frères, Laurent, qui organise ses méharés dans le désert. Donc, j'encourage aussi à le faire. Je fais ma petite pub au passage, là. Et puis, dans ce groupe de consultants, il y avait quelqu'un le responsable du groupe avait dit, mais Nicolas, je te vois marcher, tu dois être capable de faire le chemin de Compostelle. Alors ça m'a travaillé, bien sûr. Et puis, je suis fini par me décider, mon épouse m'a offert un livre, une de mes filles a fait une petite collecte en cachette. Elle m'a piqué mon carnet d'adresse et puis elle a envoyé à tous tout un groupe de gens une annonce comme quoi je voulais faire le chemin et puis
on s'est récupéré. Il fallait remplir la cagnotte.
Voilà, donc j'ai récupéré 1500 euros à peu près et puis avec ça, je suis parti sur le chemin. Alors en deux parties, en gros, la partie française que j'ai fait en 4 fois. Il fallait que je mette à l'épreuve un petit peu mes capacités. Et puis la partie espagnole que j'ai fait en une seule fois. Donc j'ai marché 106 jours au total, à 2 km/h de moyenne, parce que je marche très lentement, avec des cannes, je me fais dépasser tout le temps. Et puis quand les gîtes sont loin les uns des autres, on doit dormir dehors. Donc,
puis vous arrivez un peu le dernier.
Oui, alors au début je me méfiais, mais après je ne me méfiais pas, et puis après je me méfiais, oui. Effectivement, pour partir suffisamment tôt, mais t'arrives à partir à 3h, 4h du matin, pour être sûr d'arriver dans un hébergement suffisamment tôt. Sinon, dormir dehors, j'ai souvent dormi dehors. Au milieu des moutons, dans la forêt, au milieu des chevreuils, une fois, qui faisaient un tintamarre autour de moi, sur une pelouse, dans une caravane, pourrie au bord de la route. Enfin, bon, il m'est arrivé des tas de choses comme ça. Tout seul. Alors, il y a un aspect qui est intéressant que Bernard évoquait d'ailleurs, c'est l'aspect risque, en fait, que l'on prend. Puisque je ne savais pas où j'allais dormir, je ne savais pas ce que j'allais manger, je ne savais pas qui j'allais rencontrer. Et cette expérience, elle nous ouvre forcément à quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes. Donc c'est un plus d'être que je rencontre à travers des événements qui m'arrivent de l'extérieur que je n'ai pas prévu. Il m'est arrivé des choses extraordinaires que je raconte dans mon récit. Hein. Mm-hmm. Et ces choses-là nous remettent le pied, la prothèse sur la terre. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais et puis alors, donc puisqu'on parle de guérison et de... Alors le mot guérison me convient pas tout à fait, on pourra en reparler, c'est puisqu'il y a la dimension du soin, du temps, de la durée, de l'expérience. Je pourrais dire par exemple, depuis que j'ai fait le chemin de Compostelle, je ne connais plus jamais d'état dépressif. Ça a complètement disparu. Alors ça, c'est vraiment un signe d'unité personnelle. Bon, j'ai des petits blues de temps en temps, comme tout le monde, mais... Mais c'est des choses qui ont disparu.
À vous entendre, ce chemin, il est pour tous, même si chacun va selon ses moyens, à son rythme.
Alors voilà, ça c'est tout à fait vrai. On rencontre l'aspect des rencontres est essentiel. D'une part parce que je sais pas, c'est peut-être ma fragilité qui faisait que les gens se confiaient à moi. Des personnes m'ont dit, tu es la première personne à qui je parle. Je pense à une dame canadienne qui m'a raconté la vie très lourde qu'elle avait. Je pense à des gens qui sortaient de chimiothérapie, des gens qui sortaient d'un divorce, des gens qui sortaient d'un licenciement abusif ou qui sont au chômage, des gens qui sont blessés. Je me rappelle de deux personnes tout à fait extraordinaires qui sont... Il y en a un qui... lui, il était à moitié clochard, il fumait du chichon tous les jours. Et puis, il est peut-être Strasbourg, il n'avait pas d'argent, il faisait la manche à droite et à gauche pour faire le chemin. Et puis, il a pris en charge une dame qui était alcoolique. Puis, ils ont marché tous les deux ensemble. Ils ont trouvé un chien abandonné dans la forêt des Vosges. Ils sont partis ensemble. Et puis, voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois. C'est des gens comme ça qu'on croit, des gens... blessé par la vie, cassé, mais heureux de marcher, très heureux de marcher. Et puis on partage, on rit beaucoup. Enfin, Gaël, qui me regarde, me dit, ne conduira pas cela. En fait, on rit beaucoup, on pleure aussi, on partage, on parle. Et puis après, il y a ces grands temps de silence.
Où chacun peut trouver son chemin.
Alors, je vais peut-être... Ah oui, ah, ça va être la musique.
On va en parler un peu après la musique.
Offrir une grosse voiture rouge et verte avec des ailes chromées pour me pavaner dans la nature.
Moi je préfère les marcher pieds.
Une bagnole pleine de trucs mécaniques, une tirette pour le whisky glacé, un bouton pour le beefsteak pommes frites.
Et moi je préfère les marcher pieds.
En passant sur les Champs-Élysées, il y aurait des belles filles qui se battraient pour essayer de monter. Je chanterais. On irait faire du 300 à l'heure sur des routes champêtres et parfumées. Paris-Lyon en un peu plus d'une heure.
Et moi, je préfère les Mercedes.
Ma voiture vient de faire des merveilles. J'ai séduit la plus jolie poupée. On va vivre une nuit sans pareil.
Oh, ça vaut pour les Mercedes.
Je la vois déjà dans ma petite chambre, avec un nylon extra léger. Ses grands yeux et sa peau couleur d'ambre.
Bah tu connais pour les Mercedes.
Je l'entraîne sur un divan moelleux. Elle tombe dans mes bras. Je l'embrasse, bon sang c'est délicieux. Et je chante.
Bouf.
On s'adore, ça y est, c'est pour la vie. Ma chérie, puis-je vous proposer de passer une heure à la mairie?
Mais à la réflexion, je crois que je préfère la marche à pied.
Oh, je te l'avais bien dit.
Et oui, El Salvador préfère la marche à pied, et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Le sens de la marche, eh bien, on en parle sur RCF avec mes invités, Gaël Delabrosse, Claire Colette, Nicolas de Roglaude, et Bernard Olivier, et Florence Le Bourris Germani. Alors, Florence Le Bourris Germani, on parle du chemin depuis le début de l'émission. Vous, ce qui marque, c'est ce premier pas qu'il faut franchir, avec l'association Premier Pas. Comment vous avez trouvé l'association et comment vous êtes-vous mis en marche ?
Eh bien, je devais fêter mes 30 ans et je voulais me lancer un défi. Et je ne savais pas quel défi je pouvais relever. J'avais besoin de trouver qui j'étais avant ce passage des 30 ans. Et j'ai lu par hasard le livre de Paulo Coelho, Le Pèlerin de Compostelle. Et là, je me suis sentie appelée par le chemin. Et j'ai commencé à chercher sur Internet, voilà, qu'est-ce que c'est que ce chemin, comment on fait pour y aller. J'ai été submergée par la peur, les questions, et en cherchant sur Internet, je suis tombée sur ce site, Les Premiers Pas, et sur cette belle association présidée par Juliette Lacoste. Et voilà, et je suis partie pendant 6 jours avec le programme Au fil de soi. Donc il y a 2 programmes hein, dans l'association, c'est on marche, on est accompagné, ils s'occupent de tout, on les suit, on lâche prise. Et puis il y a un deuxième volet, plus psychothérapeutique, on est accompagné pendant une semaine avec Juliette et on travaille sur nous et on travaille voilà, sur plein de choses.
Donc vous avez réussi le défi des 30 ans.
Oui, ouais, exactement.
Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qui s'est passé en ce chemin ?
Il s'est passé que je me suis reconnectée au monde, tout simplement. Je pense que je souffre de la maladie du siècle, de la jeune génération, où on oublie d'être connecté aux vraies choses. Donc j'avais décidé aussi de couper mon portable, ça avait été très difficile, j'étais en liaison qu'avec mon mari et mon fils, que je remercie
de m'avoir lâché.
Non, de m'avoir encouragée, il n'y avait que
qui étaient en contact. Ils vous ont mis dehors presque, quand même pas.
Non, quand même pas, au contraire, c'est grâce à eux que j'ai fait ça. Et ça transforme parce qu'on se reconnecte à des choses simples, voilà, à la vraie vie, en fait. Je crois qu'on oublie ce que c'est que la vraie vie. Voilà.
Mais ça, vous imaginez pas, avant ce premier pas, que, au début, vous parliez d'un défi, c'est-à-dire, voilà, vous maîtrisez tout.
Tout à fait.
À l'approche de la trentaine, tout va bien, vous maîtrisez tout.
Exactement.
Et vous allez faire encore mieux, encore plus. Et puis finalement, c'est pas ça qui se passe. Pas tout à fait.
Bon, je sentais bien quand même que j'avais des démons intérieurs qui m'empêchaient de faire ce chemin seul. Comme j'étais plutôt de nature dans l'hyper-contrôle, j'avais besoin de lâcher prise. Mmh. Et grâce à Juliette, on lâche prise en sécurité, mais finalement en liberté. Voilà, on était libre et je crois que c'était la première fois de ma vie où je me sentais libre. Et je ne savais pas quel sens ce mot avait, d'être libre. Mmh. Voilà.
Gaëlle Delabrosse, c'est beau ça d'entendre que le chemin de Compostelle, c'est un chemin de liberté.
Et oui, c'est comme au fil de soi, ça me fait penser à la chrysalide du papillon qui effectivement devient libre en s'envolant ensuite. Hein, c'est une sorte, en effet, d'épanouissement maximum.
Cette idée de prendre le chemin comme un défi et puis peut-être de se laisser transformer, c'est ça qui est important, c'est de se laisser un peu faire par le chemin.
Oui, en effet, c'est le lâcher prise qui me semble vraiment important. C'est-à-dire qu'on part avec des tas d'idées préconçues aussi. Hein. On part dans l'idée de maîtriser tout, d'arranger son sac et d'emporter tout ce qu'il faut. Et puis après, au fur et à mesure, eh ben, on se dépouille exactement comme la chrysalide qui laisse derrière elle ses scories. Et puis au fur et à mesure de la marche, eh ben, on se reconnecte à l'essentiel, comme vous disiez, Florence. Et finalement, il ne reste plus que ça au fur et à mesure de la marche.
Florence, il faut de temps en temps entretenir, se remettre en route, repartir un peu.
Ah oui, quotidiennement. D'ailleurs, j'espère bientôt repartir à Pâques avec une personne du groupe. C'est très important. Et puis, il faut quand même que je termine ce chemin parce que je suis sûre qu'à chaque étape, il m'apportera de nouvelles réponses. Et voilà, c'est un très, très beau chemin. Et tout à l'heure, vous disiez que c'est un chemin pour tous. Oui, même pour des non-marcheurs. Bon, à côté des invités, je me sens une très très jeune marcheuse,
une débutante,
une débutante. Mais justement, je pense qu'il est pour tous ce chemin, à chacun sa mesure.
Oui. Bernard Olivier, à 60 ans ou à 30 ans, c'est toujours une aventure de prendre le chemin.
Je pense oui. Et puis il y a quelque chose, je crois, qui a été évoqué un peu par Nicolas, la marche a une vertu essentielle pour moi, c'est qu'elle abat tous les murs. Il n'y a aucune différence sur le chemin. Il n'y a pas de gens importants, de gens non importants et de grands marcheurs, de petits marcheurs. Il n'y a pas de gens intelligents ou des gens bêtes. Il y a une société sans aucune limite sociale. Toutes les barrières sociales tombent sur le chemin. On rencontre quelqu'un, on le tutoie d'emblée, on ne lui demande pas quelle est la cylindrée de sa voiture ou son compte en banque. Il y a tout de suite une vraie relation qui s'instaure. Et je pense que c'est vraiment la vertu, une des vertus importantes. Il y a la résilience qu'elle peut apporter, mais il y a aussi effectivement donc cette ouverture de extraordinaire sur les autres.
Nicolas de Roglotte, vous confirmez cette société où on peut être handicapé, sportif, débutant et puis marcher chacun à son rythme?
Ah oui, tout à fait. Moi, je partage ce point de vue. Et c'est pas une question de conviction religieuse d'abord, bon, même si on la ressent de temps en temps. Et de fait, on rencontre des gens extraordinaires. Là, ce qu'évoque Bernard, j'ai une anecdote. Je me rappelle quand j'étais à Santiago, bon, je suis allé à Fisterra, qui est complètement au bout de de l'Espagne, enfin donc le point le plus à l'ouest, paraît-il, du continent européen. Et puis je perds mes lunettes dans l'eau parce que j'étais faire un plongeon dans la mer, je perds mes lunettes, puis je vois plus rien, puis je passe au-delà d'un bar et puis j'entends Nicolas. Alors je vais voir, c'était un monsieur qui me dit viens manger avec moi. Alors, il m'a offert le repas. C'était un ancien cadre supérieur d'une entreprise française, il a dirigé des dizaines de milliers de personnes, c'était un bonhomme qui avait une très haute responsabilité. Et puis il commence à me raconter son chemin, et puis il se met à pleurer. Alors moi j'étais un peu toucheuse là-dedans. Et après, après avoir raconté ça, il m'a ramené dans sa voiture décapotable à Santiago. Et puis à côté, comme tout à l'heure, j'évoquais ces deux à moitié clochards qui marchaient. Il y a vraiment de tout. C'est prodigieux. Alors c'est surtout en fait en Espagne qu'on voit plus de gens, parce qu'en France c'est plus l'expérience de la nature,
de la solitude aussi.
De la solitude. Alors voilà. Donc ça c'est un point. Bon, il faudrait une autre émission pour développer cette question. Alors à la différence de Bernard, moi j'ai fait l'expérience de la prière parce que c'est ce qui m'a soutenu finalement tout le long du chemin. L'expérience du sol ferme, je dirais, en dessous des nuages, quoi. Les pensées, les souvenirs, les mauvais souvenirs, les frustrations, mais aussi les, Moi, j'ai fait des études, alors des envolées un peu intellectuelles. Pour ce moment, je me dis, oh là là, Hegel, Aristote peuvent rhabiller par rapport à ce que je suis en train de penser en ce moment. Et puis, je m'aperçois que j'ai marché qu'un kilomètre, que j'ai presque rien fait. Alors, je retourne, je médite des psaumes pendant des heures et des heures, où j'utilise la prière du cœur des moines du Mont Athos. C'est extrêmement apaisant et j'ai l'impression d'être sur le sol, appuyé vraiment sur le sol. Il y a une loi de Newton qui est la loi de la gravitation et elle est universelle. Et faire l'expérience de la gravité, de la pesanteur, du poids et donc de la matière, du temps qui... Ah oui, ça c'est très important. Quand on marche en France, on marche dans des paysages qui ont des centaines de milliers d'années. On est porté par quelque chose qui nous déborde de partout. Et c'est extrêmement apaisant.
Entre terre et ciel. Claire Colette, quand vous entendez le témoignage de Florence, qui nous dit que c'est l'association qui l'a aidée à se mettre en marche et à faire ce chemin, vous-même, l'association En Marche, expliquez-nous quel est son but.
En fait, quand on revient dans le chemin et qu'on retrouve la vie, parce que c'est une véritable renaissance pour moi, il y a en même temps beaucoup de joie, beaucoup de gratitude. Et à ce moment-là, j'ai vraiment besoin de donner une forme à cette gratitude, parce que ça rejaillit. Tout le bonheur que j'ai retrouvé par cette marche de 3 mois a rejailli aussi dans mes proches, dans ma vie. Tout a changé dans ma vie, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin de donner une forme. Et donc, c'est ainsi qu'avec quelques amis, on a créé cette association En Marche. Et pour en même temps pouvoir témoigner. Dans le premier temps, c'est témoigner de ce que la marche peut apporter comme bénéfice, qu'elle peut changer, elle peut vraiment guérir, elle peut nous aider à traverser des épreuves, à nous reconnecter, comme disaient aussi les autres invités. Et donc, petit à petit, on a développé un peu cette association pour donner un espace de témoignage à différentes personnes. On a commencé par faire un forum en 2016, l'année dernière, sur la question du retournement. Et donc là, toute une série de personnes, on a fait d'abord un forum belgo-belge, les suivants seront plus larges, mais pour réunir, tisser des liens avec toutes ces belles personnes, ces belles âmes qui ont véritablement connu des retournements de leur vie, et des conversions et des changements de vie, et eu des guérisons, etc. Et donc c'était un moment extrêmement touchant. Et le moment le plus touchant, c'était lorsque nous avons invité un jeune qui avait maintenant une trentaine d'années et sa famille, et qui avait été accompagné par Oikoten. Donc Oikoten, dont s'est inspiré Bernard Olivier pour créer Seuil. Oikoten existe depuis maintenant, je pense, près de 35 ans en Belgique. Et donc c'était le moment le plus touchant du forum, et on s'est dit vraiment, on a vraiment très très envie de soutenir tous ces jeunes. Alors nous, on va pas faire pareil, parce qu'il faut vraiment être techniquement, il faut construire une structure pour vraiment s'engager là-dedans, mais en tout cas de les soutenir à notre manière, en réunissant des fonds par moment. Et alors on a découvert qu'il y avait toute une série d'associations en Belgique, la Pommerée, Vent Debout, Chemin de Traverse, déjà tous des noms comme ça, Loin Devant, voilà, qui accompagnent des jeunes dans le même esprit qu'Oikoten et qu'Seuil. Alors le prochain forum, on le fera en 2018, c'est sur la thématique des nouveaux nomades. C'est-à-dire, nous sommes des nouveaux nomades, on se reconnecte avec notre dimension de nomade, les jeunes aussi en difficulté, mais de l'ouvrir à une dimension humanitaire complémentaire qui est la question des immigrés, donc de tous ces gens qui qui vont marcher contraints et forcés, alors que nous on le fait de manière volontaire.
Rendez-vous est pris.
Faire des croisements, des croisements de chemin avec différentes manières de se renouer avec le nomadisme volontaire.
Rendez-vous est pris. Les nouveaux nomades, ce sera en 2018, l'année où il n'y a pas de forum ici avec le forum des chemins de pèlerinage, puisque ça sera tous les 2 ans à partir de maintenant. Donc 2018 en Belgique, 2019, retour à Paris. Marcher en quête de sens, c'est le thème aussi de ce forum qui aura lieu ce week-end. Et en attendant le forum, on va écouter Anne Etchegoyen et on va comprendre pourquoi aujourd'hui.
Chopin, not a chore, deep in Rio, umetxu askan azazu, raionaiz libre izateko, ta ez loturik egoteko. Umetxak ikusidik, lorea ezin bizidik, arantzak gendu nahi dizkio, bizi berri bat eman, orduan izango baitu, indarra eta kemena, orduan emango baitu, ugari bere frutua, orduan emango baitu, ugari bere frutua.
Il faut écouter l'album Compostelle d'Anne Etchegoyen, publié en 2017. On interrompt la musique simplement, mais Gaëlle Delabrosse, présentez-nous un peu Anne Etchegoyen.
Oui, Anne Etchegoyen, on l'a découverte au dernier forum des chemins de pèlerinage, puisqu'elle a, c'est en avant-première qu'elle nous a donné son concert sur Compostelle, qu'elle a récemment produit à l'Olympia. Et Anne, comme beaucoup de personnes, sont parties à une rupture de sa vie, puisque c'est
basque.
Chanteuse basque, voilà. Un deuil dans sa famille, et puis voilà, une interrogation sur le sens de sa vie. Puis elle est partie sur les chemins de Saint-Jacques et elle a effectué le Camino Francés en un mois. Voilà.
Et du coup, celle-là, on l'entend inspirée. Présentez-nous un peu, alors on a encore un petit peu de temps, on va encore profiter de ces échanges autour du sens de la marche, mais présentez-nous le forum 2017 des chemins de pèlerinage qui aura lieu donc du 31 vendredi au 2 avril, 31 mars au 2 avril, forum 104, c'est 104 rue de Vaugirard à Paris, dans le 6e arrondissement. Qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, effectivement, pendant deux jours, nous allons nous retrouver, en commençant le vendredi soir par une soirée spéciale Seuil, avec Bernard Olivier, et notamment un film, et puis des échanges autour de cette démarche de Seuil, qui emmène des jeunes en difficulté marcher sur les chemins. Donc ça sera la soirée du vendredi. Le samedi, il y aura à la fois deux tables rondes, le chemin qui guérit, et puis une deuxième table ronde, on ne revient pas comme on est parti. Voilà. Il y aura aussi l'actualité des chemins de pèlerinage avec des stands. On aura là non seulement les chemins de Saint-Jacques, mais aussi du Mont-Saint-Michel, de Saint-Colomban, de Saint-Gilles, de Saint-Guilhem, de Saint-Yves, d'Urbain 5, etc., et plein d'associations aussi, notamment les premiers pas avec qui Florence Germani, Le Bourris est parti, mais aussi Compostelle Cordoue, on retrouvera donc Claire Colette avec le Forum Belge, les Marcheurs de l'Espérance, donc là ce sont des marcheurs du Secours Catholique qui partent aussi marcher, voilà, et puis plein d'autres. On remettra donc, comme vous l'avez dit Christophe, le prix du témoignage à Bernard Olivier et Bénédicte Flatté. Il y aura des visites de stand, et puis le soir il y aura
dimanche,
un grand,
oui,
dîner sur les valeurs du chemin, un World Café le samedi soir. Et puis le dimanche, après la messe du pèlerin, il y aura une grande balade dans Paris sur les thèmes des chemins. On ira vers Saint-Jacques, vers Saint-Michel et vers Saint-Martin, donc avec Béatrice Signard. Et je vous invite vraiment à vous joindre à la fois à cette balade, mais bien sûr à tout le reste du programme.
Voilà, on trouve le programme aussi sur Internet.
Oui, sur le site de Pèlerin, www.pèlerin.com, à la rubrique pèlerinage. Et important, comme il n'y a pas d'inscription, il faut arriver assez longtemps à l'avance.
Voilà, si vous pouvez suivre les différentes activités de ce forum. Alors c'est intéressant parce que, promenade donc dans Paris, c'est-à-dire que la marche, c'est pas seulement, alors on en a parlé, hein, et la beauté et l'importance de ces grands paysages, que ce soit même en France, comme nous en parlait Nicolas ou Bernard, pour traverser l'Asie, mais en ville, il y a aussi possibilité de marcher et de prendre conscience de cette marche.
Oui, de plus en plus, il y a effectivement des balades urbaines qui permettent de redécouvrir les villes où on passe tous les jours sans vraiment les regarder, sans vraiment regarder le patrimoine. Moi, j'ai récemment fait, effectivement, avec cette guide Béatrice Signard, le Paris Jacquère et le Paris Martinien. Donc, on se rend compte que à la Tour Saint-Jacques, on a à droite les chemins de Saint-Martin et à gauche les chemins de Saint-Jacques, en fait. Hein, donc, la rue Saint-Jacques, la rue Saint-Martin. Mmh. Et donc, ces chemins de pèlerinage qui structurent les villes, en fait.
Nicolas de Reglaude, quand il faut se mettre en marche, à quoi il faut penser? Il faut pensé justement à lâcher prise ou malgré tout un minimum de préparation?
C'est une très lourde question là que vous
oui.
posez.
Oui, et bien vous, il vous reste 2 minutes.
Bon, écoutez, alors une chose qui est importante et qui a été dite là par plusieurs personnes, c'est le problème du lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas l'abandon, hein, c'est l'expérience de la confiance. Alors c'est vrai que des personnes m'ont dit « Ah, il faut du courage, de la volonté, etc. » Moi, j'en ai pas énormément et il faut à peu près 7-8 jours pour laisser tomber cette idée que c'est un coup de volonté de soi-même. Non, au contraire, faire confiance à ce qui va se passer, aux événements qui vont se passer. Alors après le problème du handicap, là effectivement il fallait que je calcule un petit peu ce dont j'étais capable de faire. Alors je vais juste finir peut-être sur une anecdote. Je suis parti avec une prothèse couleur chair. Vous savez ces prothèses qu'on fait dans chez les prothésistes, ça fait un peu sale, ça fait un peu etc. Parce que finalement on veut se cacher, on veut être comme les autres, on veut pas se trop montrer. Et puis, ma prothésiste, un jour, m'a proposé, pendant le chemin, après Cahors, si je me rappelle bien, non, après Conques, elle m'a dit, une nouvelle prothèse qui va mettre en route, et puis, de toutes les couleurs. Donc, j'ai une prothèse qui est colorée de toutes les couleurs. Donc, moi, je marche en short, en sandales, et puis tout le monde voyait que j'avais une prothèse rouge, bleue, blanche, à côté de... Alors, on posait des questions, et puis... Mais c'est une manière de dire, je suis handicapé. Et puis,
voilà, vous affichez la couleur.
J'affiche la couleur. Voilà, c'est très très bien. Oui, c'est tout à fait ce qu'il fallait dire. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, on est dans une société où on voudrait quand même tous, une espèce de course permanente. Et puis ceux qui sont un peu malades, handicapés ou vieillissants, etc., ils voudraient rentrer plus ou moins dans les cadres de notre monde. Et puis, on affirme sa différence. Puis, voilà.
Bernard-Olivier ?
Moi, je dirais qu'effectivement, on a beaucoup parlé de lâcher prise, mais le lâcher prise ne se fait pas seulement pendant la marche. J'ai été très frappé, je suis revenu de Compostelle par le train, et j'ai discuté avec une dame qui venait de faire Compostelle pour la deuxième fois. Et elle m'a dit, la première fois, quand je suis rentré chez moi, j'habite au deuxième étage, j'ai aperçu la télévision, j'ai jeté la télévision par la fenêtre parce que
c'est pas passé en dessous.
Voilà, j'avais découvert que je pouvais devenir plus autonome et que donc j'avais acquis en quelque sorte une capacité à vivre sans les prothèses précisément que nous offre la société.
Je retrouve mes papiers. Claire Colette, simplement, on arrive au terme de l'émission, mais très rapidement, oui, c'est bien ça, c'est chacun peut être sur le chemin, peut devenir soi-même, peut-être.
Oui, je pense que le chemin nous permet d'aller vers nous. Gaël disait tantôt qu'il y avait une petite différence entre la marche et le pèlerinage, là, et on sait où on va, et puis donc il y a un objectif, un but. Et sans faire polémique, moi je pense que marcher, c'est simplement aller vers soi, et on peut marcher vers soi, que ce soit sur un chemin de randonnée ou un chemin de pèlerinage. En tout cas, moi, je l'expérimente comme ça, parce que je marche sous différents chemins de pèlerinage, mais je marche aussi, par exemple, dans les Pyrénées. Je fais la même expérience, je dirais presque mystique, en allant marcher dans les Pyrénées, dans les montagnes, dans cette immensité de la nature qui nous prend, et d'être en lien avec soi, mais pas un soi égocentrique, c'est un soi qui est un soi du cœur et qui nous relie au divin, pour ceux qui s'ouvrent à cette dimension-là, en tout cas qui... Voilà.
Merci.
Donc, c'est, voilà.
Merci. On pourrait en parler encore longtemps. Florence Lebouris, Germany, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez envie de vous remettre en marche, oui. De pouvoir reprendre le chemin. Allez, en une minute, comment vous donnez le goût aux autres de se mettre en marche? Alors après, si tout le monde est sur la route, ça va être compliqué, mais...
En un mot, la marche, je pense, nous aide à accepter qui on est. Et voilà. Je pense que c'est la meilleure chose que je peux dire.
Bernard-Olivier, on n'a jamais fini de se découvrir en marchant.
Non, et puis mais moi j'attache plus d'importance à découvrir les autres. Je pense que nous sommes dans une société où on n'a plus le contact avec les gens. J'ai habité longtemps à Paris où on est dans l'indifférence de la foule. Or j'ai découvert précisément à travers la marche que les gens existent, qu'ils ont qu'ils sont ouverts et donc que on, on on retrouve, je dirais, son humanité à travers la marche.
Le sens de la marche, eh bien, c'est ensemble. Merci à tous les cinq pour ce partage, pour cette expérience, pour ces témoignages. Je rappelle les livres des uns et des autres, puis Guide spirituel des chemins de Saint-Jacques, c'est le livre de Gaëlle Delabrosse, paru aux Presses de la Renaissance en 2010, qui est toujours disponible.
Oui, il va être actualisé et réédité là.
Et ben voilà, il faudra profiter de la nouvelle version. Compostelle, la saveur du chemin, c'est le livre de Claire Colette paru chez Academia en 2015. Marche et invente ta vie. Bernard Olivier, vous l'avez écrit pour les jeunes, mais je pense que c'est pour tous.
Tout à fait.
C'est pour tous. Longue marche, suite et fin. Eh bien, suite et fin, n'hésitez pas à reprendre les tout premiers livres Longue marche, qui étaient aussi de très beaux, à la fois très beaux témoignages et aussi une vraie plume, une vraie écriture littéraire. Bernard Olivier, Longue marche, suite et fin avec Bénédicte Flatté, c'est paru chez Phébus. Et puis Journal d'un unijambiste sur le chemin de Compostelle, Nicolas de Roglaudre, c'est paru chez Nico Rasson. Eh bien, voilà, merci à Pierre-Henri Paget, qui est resté, mais qui va marcher après. Merci à Florence de Saint-Preux, qui court déjà et qui m'aide chaque semaine à préparer cette émission. Vous pouvez la réécouter, www.rcf.fr. Bonne semaine.